Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique, corriger des questions sur le texte. Chers élèves, si vous écoutez ce corrigé, c'est que normalement vous avez écouté le texte, vous l'avez bien lu et relu et vous avez répondu aux questions qui étaient à la fin de l'audio-texte. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire. Je vous invite aussi à relire le texte si jamais vous avez répondu aux questions il y a quelque temps, histoire de vous réimprégner de ce texte. Il s'agit d'un texte mi-littéraire, mi-philosophique. Vendredi ou les limbes du Pacifique, c'est un roman philosophique. C'est un roman parce que c'est une fiction de A à Z, c'est une œuvre narrative et cependant, il y a tout au long du texte une dimension de réflexion qui est une dimension de réflexion philosophique. Alors, ce roman Vendredi ou les limbes du Pacifique, c'est une robinsonnade, c'est-à-dire que c'est une reprise de l'histoire classique de Robinson Crusoé, un roman d'aventure, d'ailleurs le premier roman d'aventure en langue anglaise, écrit au début du XVIIIe siècle par Daniel Defoe. Si vous êtes en train de prendre des notes, Robinson s'écrit comme ça s'entend. Crusoe, bah aussi, hein, Crusoe. Et Daniel Defoe, Daniel comme Daniel et Defoe, Defoe. Robinson Crusoe, c'est vraiment un grand, grand classique de la littérature. Et ça a été repris maintes fois au cinéma, réécrit. Là, il s'agit donc d'une réécriture parce que, eh bien, c'est une histoire qui fonctionne comme une fiction théorique qui permet de penser l'homme dans la solitude la plus absolue et permettant de comprendre l'importance du rapport à autrui, l'importance du rapport à la nature, l'importance du rapport à la civilisation de l'homme qui est tout cela étant remis en question, remis en cause par la solitude absolue, puisque Robinson Crusoe est un naufragé, naufragé qui va vivre seul. Alors dans le roman initial, il vit 28 ans sur son île et il y rencontre en fait Vendredi qui est un indigène qui est issu d'une tribu de cannibales. Bon, bref, et qui devient son compagnon sur l'île. Et donc c'est la même chose dans le roman de Michel Tournier. Nous avons ce personnage de Vendredi qui arrive, bon, assez tard dans le roman. Et l'extrait dont il s'agit et que je vous donne à analyser, c'est un extrait d'une réflexion qui se situe avant l'arrivée de Vendredi dans la vie de Robinson. Et l'intérêt de ce texte par rapport à la question de la métamorphose et la question du rôle d'autrui dans la métamorphose, c'est que Robinson va subir toute une série de métamorphoses en fait sur son île, et ces métamorphoses ne sont pas liées à la présence d'autrui, mais au contraire à l'absence d'autrui. Donc l'absence totale d'autrui et ce qu'elle implique en termes de métamorphose permet de comprendre du coup en creux, par contraste, quelle est l'importance et quel est justement le rôle positif d'autrui, non pas dans le changement, mais dans la stabilité du moi. Parce que ce que découvre en fait Robinson dans ce texte, c'est l'importance qu'avait autrui dans la stabilité de son identité dans ses repères autrui, constituer un repère dans son monde, lui permettait une projection dans l'avenir, lui permettait de se rapporter également à lui-même d'une manière dont il ne peut plus se rapporter à lui-même. La thèse donc philosophique de ce texte par rapport au problème du rôle d'autrui dans mes changements ou au contraire dans ma permanence, c'est que autrui est nécessaire pour fonder l'identité personnelle. et que sans autrui, il n'y a plus de moi stable. Autrui est donc nécessaire au moi. On va donc reprendre ce texte paragraphe par paragraphe en suivant l'ordre des questions et en essayant de procéder à une analyse un petit peu plus fine de ce texte. Alors, on a déjà répondu à la question numéro 1 concernant Robinson. Donc, c'est la question numéro 2 qui porte sur le premier paragraphe. La question étant, quel est le résultat de la situation d'extrême solitude que vit Robinson sur Robinson? Alors évidemment, pour répondre, on va prendre appui sur les mots du texte. À la ligne 2, vous avez justement une phrase qui met en évidence le type d'effet produit par la solitude sur Robinson et les adjectifs qui sont choisis. Alors l'adjectif corrosif, c'est un milieu corrosif pour décrire donc la solitude et qui agit donc dans un sens purement destructif. Voilà, des corrosifs et destructifs mettent évidemment en exergue le caractère destructeur de la solitude. La question étant, qu'est-ce qui est détruit? Qu'est-ce qui est érodé par la solitude en Robinson? Et c'est à la fin du paragraphe, donc dans la dernière phrase, dès lors je suis avec une horrible fascination le processus de déshumanisation dont je sens en moi l'inexorable travail, qu'on apprend ce qui est justement détruit par la solitude à travers le terme déshumanisation. Ce qui est donc détruit, c'est l'humanité de Robinson. En étant seul, Robinson perd sa qualité d'être humain. Et il y a une insistance dans ce paragraphe sur le fait que cette déshumanisation, elle est très 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 progressive. Parce que finalement, autrui, même s'il n'est plus là, en termes de présence, il existe toujours pendant un certain temps dans l'esprit de Robinson qui projette en fait autrui dans son monde, qui continue à l'imaginer. Autrui continue à être là, mais uniquement en esprit. D'autant que, ben, au départ, Robinson espère toujours voir arriver un navire, et donc cet espoir auquel il tient permet justement à autrui de conserver une certaine place dans sa vie et dans ses actions. Sauf que bah, petit à petit, Robinson perd espoir et que par conséquent, autrui disparaît de plus en plus. Et c'est justement à l'aune de cette disparition que son importance se révèle. Ça va être le deuxième paragraphe. Alors, la question que je vous posais concernant ce deuxième paragraphe portait sur l'analogie. Il y a une analogie, donc quelle analogie se trouve dans ce paragraphe et quelle est la fonction de cette analogie? Une fois qu'on a repéré une analogie, il faut toujours dire à quoi elle sert et ce à quoi elle permet d'aboutir. Petit rappel, qu'est-ce que c'est qu'une analogie? Une analogie, c'est une identité de rapport, c'est une comparaison, mais il s'agit de comparer des couples en fait, et de voir quelle est l'identité de rapport entre ces couples de choses. Donc on peut remarquer dans un premier temps qu'il y a une comparaison entre le paysage, un tableau paysage, et le paysage que je vis, à savoir mon monde. Donc il y a une comparaison entre mon monde et un paysage au sens de tableau. Et dans ces paysages, donc, les peintres ajoutent des personnages. À quoi correspond le personnage? Il correspond à autrui. Donc, je peux reconstituer mon analogie. Le personnage est au paysage ce qu'autrui est à mon monde. Ou au monde de Robinson, si on reste attaché au texte. Reste à savoir ce qu'est la fonction de cette analogie, c'est-à-dire ce qu'elle montre. Donc, le personnage est au paysage, ce qu'autrui est au monde de Robinson. C'est ce qui ajoute, alors là je vais citer le texte, c'est ce qui constitue des points de vue possibles, qui ajoute au point de vue réel de l'observateur d'indispensables virtualités. Autrement dit, quand je vois un personnage dans un paysage, j'ai mon point de vue sur le paysage et j'imagine que le personnage qui est à l'intérieur du tableau a lui-même un autre point de vue. Il peut voir la même chose un peu plus loin, il peut voir un peu plus à droite ou un peu plus à gauche. Bref, grâce à lui, grâce au regard de ce personnage, je peux aller au-delà de ce que moi je vois du paysage. Eh bien, c'est pareil en fait pour Robinson. Les êtres imaginaires qu'il place dans son monde, comme il le dit, comme cela est dit au premier paragraphe, à quoi ils servent? Eh bien, ils servent à ajouter des points de vue. Et c'est parce que j'imagine d'autres points de vue que le mien ici et maintenant que finalement je peux dépasser un petit peu l'horizon, que je peux me projeter éventuellement dans l'avenir. C'est le rôle justement d'autrui que de me permettre de me projeter ailleurs, de me projeter autre part ou de me projeter dans un autre temps. On peut passer à la question 4, donc sur le troisième paragraphe. Cette question était: quel processus mental se produit dans une situation de solitude normale ou habituelle? Donc, toujours, on va se reporter au texte. Je relis ce troisième paragraphe qui est assez court. À Speranza, il n'y a qu'un point de vue, le mien, dépouillé de toute virtualité. Et ce dépouillement ne s'est pas fait en un jour. Au début, par un automatisme inconscient, je projetais des observateurs possibles, ainsi fait tout homme normal dans une situation normale. Je n'ai pris conscience de cette fonction, comme de bien d'autres, qu'à mesure qu'elle se dégradait en moi. Alors, on peut remarquer que la première phrase correspond, du coup, à la conséquence de ce qu'on avait dit auparavant dans le deuxième paragraphe. C'est autrui qui me permet d'ajouter des points de vue aux miens, de pouvoir me projeter ailleurs, dans un autre point de vue que le mien. Donc, si je perds autrui, eh bien, mes points de vue sont réduits à mon seul point de vue. Il n'y a que mon point de vue, et par conséquent, il n'y a plus de virtualité. Vous pouvez entourer ce mot virtualité. Virtualité, ça vient virtus, hein, en latin, et c'est la puissance au sens ici au sens de potentialité. Virtualité signifie potentialité. C'est ce qui pourrait être. Et qu'est-ce qui me permet d'imaginer quelque chose qui pourrait être mais qui n'est pas encore là ou qui n'est pas dans mon champ de vision? Eh bien, c'est justement le fait d'avoir d'autres points de vue que le mien sur le monde qui m'entoure. Donc, pour en revenir à la question, ce que nous faisons tous, en fait, dans des situations de solitude normale, quand nous ne sommes en présence d'aucune autre personne, eh bien, nous imaginons, nous projetons la présence d'autrui dans la pièce dans laquelle nous nous trouvons. Par exemple, en ce moment, je suis seule dans une pièce, et pourtant, si j'agis de la manière dont j'agis, c'est parce que je vous imagine ici, et c'est pour vous, pour mes auditeurs, que je parle. Et même si je suis seule dans cette pièce, j'entends des bruits qui viennent de l'extérieur, j'entends un chien qui aboie et j'imagine qu'il est en train de se promener avec son maître, j'entends des voitures, donc j'imagine qu'il y a d'autres personnes que moi dans ces voitures. Donc, même si je suis seule, je suis toujours accompagnée en esprit par des autrui potentiels, ou des autrui virtuels. On en arrive donc à la dernière question, question 5 sur le quatrième paragraphe. La question étant: quelle métamorphose de Robinson produit la solitude et l'absence d'autrui? Encore une fois, nous allons nous appuyer sur le texte. On avait vu au premier paragraphe que le processus dont était victime Robinson, ce processus de dégradation, c'était la dégradation de son humanité, c'était une déshumanisation. La question étant, comment est-ce que se traduit en fait cette déshumanisation et qu'est-ce qui est donc humain en fait. Et on voit que déshumanisation ici n'a pas vraiment un sens moral. On pourrait penser à une perte d'humanité au sens d'une perte de bonté, de bienveillance. Là, c'est une perte d'humanité au sens d'une forme d'intelligence qui repose sur la conscience, sur la raison, et qui, dans le contraire, en fait, est ici la déraison et la folie. Si on s'appuie sur le texte, c'est bien de cela dont il s'agit, puisque nous avons un champ lexical du délire, de l'illusion, de la déraison, donc trois dernières lignes, contre l'illusion d'optique, le mirage, l'hallucination, le rêve éveillé, le fantasme, le délire, le trouble de l'audition. Le rempart le plus sûr, c'est notre frère, notre voisin, notre ami ou notre ennemi, mais quelqu'un, grand Dieu, quelqu'un. Donc, accumulation de termes renvoyant à la folie, ainsi déshumanisation est synonyme de déraison. Et comme nous l'avons vu, l'un des synonymes de fou, c'est aliéné, et que nous avons beaucoup parlé des métamorphoses qui constituent des aliénations, c'est-à-dire le fait de devenir étranger à soi-même, de ne plus être soi-même, on a bien ici une aliénation absolue, la plus paroxystique des aliénations, puisque ce n'est pas simplement que je ne suis plus moi-même par une absence d'autrui prolongée, c'est que je ne suis plus humain et je perds mes qualités proprement humaines qui finalement ne peuvent se construire que grâce à autrui, en présence d'autrui, à savoir la rationalité, la conscience de soi, la conscience morale. Toutes ces qualités-là, je ne m'en aperçois pas, mais je ne les développerai pas si autrui n'était pas là. Nous allons donc nous en tenir là pour la lecture un petit peu détaillée de ce texte de Michel Tournier, un très joli texte qui pourra vous être très utile dans le cadre d'une réflexion et une question de réflexion sur les métamorphoses du moi.